64 900 code matin. Il est 7h.
RTL Matin.
Avec Stéphane Carpentier.
7h, toute l'actualité, c'est avec Rachel Saadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une, le premier grand débat des Européennes, c'est l'événement ce midi sur RTL.
Grand jury exceptionnel avec les 7 principales têtes de liste en direct. Les deux policiers mis en cause dans l'affaire Nel qui vont rejouer la scène du drame ce matin à Nanterre. À Châteauroux, la marche blanche en hommage à Matisse a réuni 8000 personnes. La SPA ouvre ses portes, celle de ses refuges ce week-end. Et puis, des chiffres et des lettres, ça s'arrête presque 60 ans après la création du jeu mythique.
Européenne 2024 sur RTL.
Et donc, les 7 principales têtes de liste aux élections européennes réunies pour la première fois. Le débat exceptionnel, c'est ce midi sur RTL.
Manon Aubry, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann, Valérie Ayé, Marion Maréchal, Marie Toussaint, tous invités du grand jury RTL, Le Figaro, M6, Paris Première, en partenariat avec LCP. À 5 semaines du scrutin, la principale préoccupation des Français, selon le dernier sondage BVA X-Site pour RTL, c'est le pouvoir d'achat, comme en témoigne cette question adressée par Dominique, retraité.
Alors, si j'étais face aux candidats, je leur demanderais, connaissez-vous bien tous les Français, ceux qu'on ne voit pas dans les journaux? Les gens qui sont au chômage, les gens qui n'ont pas de boulot, les gens qui ont des SMIC pour vivre en région parisienne, c'est pas possible. Je leur demanderais de plus se préoccuper des gens en France.
Et Julien Fautra, vous le confirmez, le pouvoir d'achat, c'est bien la préoccupation numéro 1 des Français, même si ce n'est pas la seule.
Oui, et il en sera largement question aujourd'hui dans notre grand débat des têtes de liste, protectionnisme, libre-échange, comment l'Europe peut sauvegarder ou accroître le pouvoir d'achat des Français. L'un des autres grands enseignements de notre sondage concerne la question de l'immigration. Deuxième thème qui compte le plus dans le choix de vote lors de ces élections européennes et qui gagne 4 points en moins d'un mois, c'est très important. Le Rassemblement National, premier dans les sondages, en a fait son sujet de campagne. Sa tête de liste, Jordan Bardella, est parvenu à imposer ce thème de l'immigration dans le débat. D'ailleurs, parmi les 5 sujets qui préoccupent le plus les Français, il y a immigration, terrorisme et sécurité.
Julien Fautra du service politique de RTL, le grand jury exceptionnel, hein, tout à l'heure, dès midi en direct sur RTL et Paris Première.
En attendant, il est 7h02, ils étaient plus de 8000 réunis hier pour rendre un dernier hommage à Matisse.
Marche blanche organisée par la ville de Châteauroux dans l'Indre, là où l'adolescent de 15 ans a trouvé la mort le week-end dernier, poignardé à plusieurs reprises. Matisse, un vrai gentil, c'est ce qu'on pouvait lire sur la pancarte que tenaient ses proches hier, avec aussi une photo du jeune homme. Et dans le cortège, tous étaient venus soutenir la famille de Matisse.
Ça fait une semaine que moi personnellement j'y pense. Que je savais que je viendrais à la marche blanche et que bah, ça me noue l'estomac, alors j'ose même pas penser aux parents.
Alors, on n'est pas dans le schéma habituel des règlements de compte, on est vraiment dans un schéma d'une agression sauvage. Je pense que tout le monde s'est senti touché, on a tous à cœur de partager ça. Je suis très fier de ma ville et de Châteauroux aujourd'hui, où on a une population qui s'est vraiment réunie, qui a respecté la volonté des parents. Bel hommage, non politisé, chacun a respecté, il n'y a pas eu de banderole, il n'y a pas eu de manifestation, pas de casse, pas d'émeute, rien. Une ville qui sait rendre hommage à son enfant.
Des témoignages recueillis par Pierre Bazin, envoyé spécial de RTL à Châteauroux. Et c'est un autre jeune, le principal suspect de la mort de Matisse, qui a été mis en examen pour meurtre, placé en détention provisoire la semaine dernière. À Nanterre, la justice réunit aujourd'hui les principaux protagonistes de l'affaire Nael. Les deux policiers mis en cause vont rejouer la scène du drame lorsque le 27 juin dernier, l'adolescent de 17 ans est mort, tué par balle. Un drame qui avait entraîné des émeutes dans tout le pays. La reconstitution, elle commence donc ce matin et elle vise notamment à établir si le tir de police était ou non légitime. Nous serons sur place à Nanterre dans le journal de 8h sur RTL.
À l'actualité à l'étranger, Rachel, on vous parle ce matin d'une ancienne mannequin russe qui sauve des enfants ukrainiens de la guerre.
Autrefois proche des oligarques de Moscou, Oksana Volzina mène une vie radicalement différente. Aujourd'hui, loin des podiums et des paillettes, Gauthier de Lombugard, l'ex-mannequin, parcourt les zones de guerre au péril de sa vie pour évacuer les civils.
Au printemps dernier, après l'explosion du barrage de Kakhovka, la région de Kherson est sous les eaux. Dans les territoires occupés par la Russie, les habitants sont livrés à eux-mêmes, juchés sur les toits pour tenter de survivre à ces inondations. Oksana et ses amis embarquent dans deux petits bateaux à portée de fusil des snipers et de l'artillerie russe. L'ancienne mannequin publie une vidéo sur Facebook. Autour d'elle, dans la barque, les sourires des enfants qui viennent d'être secourus.
En trois jours, on a évacué 10 enfants, 10 adultes et un chien qui se trouvait côté russe. C'était très dangereux, mais on y est quand même allé, car sinon personne ne l'aurait fait. C'était de la folie.
Oksana, ex-jet-setteuse, parcourt désormais avec son équipe les rues dévastées et les sous-sols de Barmout, au-delà des lignes russes.
C'est très difficile de ramener les gens avec nous côté ukrainien à cause de la propagande russe diffusée à la radio. Ils ont peur d'aller en Ukraine, mais je leur dis qu'ils auront à manger et qu'ils pourront vivre en sécurité. Ils finissent toujours par nous suivre.
Oksana a ouvert un pensionnat au nord de Kiev. 50 enfants sont accueillis dans cette école, encadrés par des professeurs et des psychologues.
Gauthier Delambugard du service international de RTL. Le président chinois Xi Jinping arrive en France cet après-midi et ça pour une visite d'État de 2 jours. Il sera reçu demain à l'Elysée par Emmanuel Macron.
Ce week-end, c'est porte ouverte dans les 64 refuges SPA de France.
Et au total, ils sont 6000 pensionnaires à quatre pattes à la recherche de nouveaux maîtres pour les chérir. Car oui, il ne suffit pas de craquer à la vue d'un adorable chiot ou d'un chaton. Les aspirants propriétaires doivent s'engager à prendre soin des animaux. Et ça, la SPA fait tout pour s'en assurer, comme vous l'avez constaté au refuge d'Inzizac, près de Lorient, Nicolas Bobby.
Elsa, petite chatte blanche et crème, vient d'être adoptée par Amandine Christophe et leur fils Nathaël.
C'est une démarche faite avec toute la famille, avec la volonté de sauver un animal.
Elle est très mignonne, elle adore les caresses, en plus elle est joueuse.
Elle est venue relativement facilement vers nous.
Alors ma belle, elle a 1 an.
170 euros couvriront les frais vétérinaires. La SPA d'Inzinzac fonctionne également grâce à des bénévoles comme Annick.
Moi je promène les toutous et à l'occasion, je suis famille relais pour les chattes en difficulté avec leurs petits.
Un chien n'est pas un jouet, Lilou va remettre au futur adoptant un certificat d'engagement résumant tous les besoins de l'animal.
On va d'abord beaucoup discuter sur votre mode de vie, de vos connaissances sur le chien et de votre capacité à l'éduquer. Après, on n'est pas contre l'appartement, mais c'est vrai qu'en fonction de nos pensionnaires, ça peut être plus ou moins compliqué.
L'adoption d'un chien coûte 270 euros. Dior, 2 ans, un croisé berger m'a confié... Traduction... Adoptez-moi, je suis un toutou très sympa.
Nicolas Bobby qui parle couramment le chien, son reportage de celui de notre correspondant en Bretagne. Nicolas Bobby, merci.
C'est une page de l'histoire de la télévision, Rachel, qui se tourne.
Et oui, presque 60 ans après sa création, le jeu des chiffres et des lettres ne sera pas reconduit à la rentrée. Laurent Marsic, alors vous revenez sur l'histoire de ce jeu mythique, c'est le plus vieux de la télévision française.
Et un jeu qui au départ en 1965 ne s'adressait qu'aux férus de la langue française. L'émission créée par Armand Jameau s'appelait alors Le mot le plus long et était animée par une présentatrice, Christine Fabrega.
Bonsoir à tous.
Le jeu s'arrête en 1970 et renaît 2 ans plus tard. On joue avec des lettres et désormais aussi avec des chiffres. Des chiffres et des lettres venaient donc de naître. Aux commandes, un jeune animateur, Patrice Lafont.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir des chiffres et des lettres.
Et une équipe de spécialistes, un monsieur Dico, Max Favalelli, et un monsieur Calcul, qui sera vite remplacé par un candidat aux 12 victoires, Bertrand Renard.
Le compte est bon, 8 et 6, 13.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Ah, je me suis trompé, pardon.
Il faut dire que l'émission a été tournée dans les conditions du direct et donc sans filet.
Monsieur Fagnou.
Chiante.
Oui, le même.
Chiant.
Valérie Vandamme.
9 lettres. Avec enculage, au pluriel.
Oui, et des mouches exclusivement.
La saison dernière, le jeu avait été relégué aux fins d'après-midi, le week-end, n'attirant plus que quelques centaines de milliers de téléspectateurs.
Des chiffres et des lettres, toute une histoire, des extraits qui forcément vous font encore sourire ce matin, mais un jeu qui ne sera pas reconduit donc à la rentrée. Merci beaucoup Laurent Marsic.
Les sports, Rachel, et les résultats d'hier en 32e journée de Ligue 1 de football.
Monaco conforte sa place de dauphin, synonyme de qualification en Ligue des Champions en battant largement Clermont 4-1. Brest tenu en échec sur sa pelouse par Nantes, score final 0-0. Rennes s'est imposé 3-2 à Metz. Le Havre a maîtrisé Strasbourg à domicile 3-1 ce soir, 19h15. Retrouver Jean-Michel Rascol et Baptiste Durieux pour On refait le sport. Mais pas de soirée foot et pas de match. On commémore la catastrophe de Furiani, 32 ans après le drame qui a coûté la vie à 18 personnes. Reprise demain soir. Lille accueillera Lyon à 21h.
Merci Rachel. RTL.fr pour toute l'actualité. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. On salue Françoise, auditrice de Nancy. 11 degrés. Elle nous dit quel bonheur de vous écouter. Les chevaux, le quintet du dimanche aux portes de Paris, avis aux parieurs. Notre guide est en place, Dominique Cordier, avec les pronostic RTL. Bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous prenons le chemin de Longchamp cet après-midi pour le prix du passage Sainte-Anne. C'est notre quintet. Ils sont 16 au départ, des purs 100 sur la distance de 2100 mètres. Le lot est modeste, certes, mais il y a une tirelire de 2 millions d'euros associée à ce quintet qui va, sans nul doute, payer. Mon favori porte le numéro 10, s'appelle Pangaea. Pangaea qui est en pleine forme. Il a réussi toutes ses courses cette année. C'est un expert de la distance. Il est bien placé à la corde. Son poids est intéressant. Il faut le garder dans ses jeux. D'autant qu'il est associé à un jockey en forme, Alexis Pouchin. Je vous livre, Stéphane, ma sélection avec en tête ce numéro 10, Pangaea. Puis le 13, Steel Demir. Le 2, Alisto King. Le 15, Sanen. Le 3, Hermano. Le 8, Goldieway 200. Et enfin le 9, Melbora, le 10, le 13, le 2, le 15, le 3, le 8 et le 9, pour un départ à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL.
Alors rendez-vous dans 60 minutes pour le quintet à Longchamp en attendant les pronostics accessibles dès maintenant en cliquant sur rtl.fr. Stéphane nous écoute depuis le Pays Basque, il nous précise que c'est bien nuageux ce matin. Bah tiens, Graziella aussi est au Pays Basque actuellement et elle confirme pas de soleil.
RTL Matin. On en parle.
Les journées de la sécurité routière au travail, c'est du 27 au 31 mai. On en parle avec Jean-Michel Pinel. Vous êtes le dirigeant de la société CEPI, basée en Bretagne, où je vous appelle. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-nous, en quoi consiste cet événement ?
Eh bien, les journées de la sécurité routière au travail incitent les employeurs à organiser des animations de sensibilisation aux risques routiers.
Alors justement, quel choix avez-vous fait pour vos salariés ?
On a décidé de préparer suffisamment à l'avance leurs déplacements pour prévenir les risques de fatigue sur la route. Nos véhicules sont équipés d'outils d'analyse des conduites et puis on a imposé une tolérance zéro pour le téléphone au volant.
Très bien, merci.
On en parle. Pour participer aux journées de la sécurité routière au travail, rendez-vous sur sécurité-routière.gouv.fr.
Anthony Martin sur RTL.
Laissez-vous tenter.
La romancière Virginie Grimaldi, une des plus lues en France, n'en finit pas de surprendre. Elle se confie en tête à tête. Les secrets de la toile monumentale d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Ce tableau vient d'être restauré et les révélations sont nombreuses. Et puis quelques jours après sa disparition, hommage à l'écrivain américain Paul Auster. Il y a 5 ans, il nous avait ouvert les portes de son bureau, là où il écrivait, chez lui, à New York. Laissez-vous tenter, c'est chaque dimanche à 9h15. Alors,
à tout à l'heure.
Laissez-vous tenter. 6h, 9h15,
RTL Matin,
avec Stéphane Carpentier.
Merci de nous rejoindre à 7h12. Nous avons fait le choix de vous parler ce matin d'une reconstitution. C'est à 9h, tout à l'heure, un dimanche, à Nanterre, la reconstitution de l'affaire Naël.
RTL Événement.
Aujourd'hui, ce sont deux policiers qui vont rejouer la scène du drame ce 27 juin 2023, quand Naël, 17 ans, est alors tué par le tir d'un policier. Bonjour Plana Radenovic.
Bonjour.
Un drame qui avait donné lieu à une série d'émeutes mémorables. Rappelez-nous d'abord, Plana, ce qui s'était passé ce jour-là.
Quelques heures après la mort de Naël, deux vidéos de la scène ont été rapidement diffusées sur les réseaux sociaux. On voit nettement le policier tirer sur le conducteur d'une Mercedes jaune qui avance très lentement. Avant ça, tout commence par un refus d'obtempérer. Vers 8 heures, deux policiers à moto veulent contrôler Naël à Nanterre. Le jeune homme de 17 ans circule sur une voie de bus, il accélère. Les motards se lancent à sa poursuite. La Mercedes grille les feux rouges, évite de justesse un cycliste avant de se retrouver bloqué dans la circulation. Les policiers se rapprochent à pied de la Mercedes. Là, les versions divergent sur les mots prononcés avant le tir notamment, ou sur la trajectoire de la voiture. Le policier qui a tiré était-il à ce moment-là vraiment menacé ? La reconstitution doit permettre de le déterminer.
Justement, Plana, qu'est-ce qu'on attend de cette reconstitution ?
Alors, il s'agit de confronter les versions de chacun à la réalité du terrain. Tout va commencer à 9h, à l'endroit même où le policier a tiré sur Naël, à l'angle du boulevard Débouvet et du passage Arago à Nanterre. A-t-il tiré parce qu'il se sentait menacé par la trajectoire de la Mercedes jaune, ou aurait-il pu se replier ? Les investigations ont permis d'établir que les policiers se trouvaient dans un espace d'une quarantaine de centimètres entre la voiture et un muret. Sur place, il y aura aussi les témoins principaux qui répéteront ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont dit aux enquêteurs. Être sur les lieux est capital, oui, car comme le souligne une source proche du dossier, certes, tout le monde a pu voir les deux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, mais une vidéo, c'est toujours un angle, un point de vue. La reconstitution a d'ailleurs été programmée ce dimanche, car des travaux vont être réalisés sur cet axe. Le fameux muret aurait risqué d'être détruit. Au cœur d'un large périmètre de sécurité et avec des mesures de protection très importantes, la reconstitution du drame peut durer quelques heures comme toute la journée.
Ah oui, la sécurité de cette reconstitution, Plana, on l'imagine bien, c'est un enjeu très important. Hein.
En effet, d'ailleurs, l'avocat d'un des deux policiers mis en cause avait même demandé la délocalisation de la reconstitution. Pour lui, cet acte faisait courir trop de risques à son client. À l'appui de sa demande aux deux juges qui instruisent l'affaire, il rappelait les nombreuses menaces de mort reçues par les policiers depuis le début de l'enquête, l'atmosphère inflammable, les émeutes de l'été dernier, mais les magistrats ont maintenu la reconstitution sur les lieux des faits en assurant que les mesures de sécurité seront suffisantes. Un vaste périmètre, un déploiement important de forces de l'ordre et les deux policiers mis en cause auront des gilets pare-balles, des casques de moto et même des cagoules pour être sûrs de ne pas être reconnus. Des photos de la scène pourraient fuiter et désigner sur les réseaux sociaux les deux policiers comme des cibles.
La reconstitution de l'affaire Naël à partir de 9h tout à l'heure, plus de 10 mois après le drame. RTL événement avec Plana Radenovic de notre service police-justice.
Le jardin RTL.
Instant jardinage du dimanche matin sur RTL avec notre vedette des réseaux sociaux, notre pro des potagers, c'est Pierre le cultivateur qui a des choses à vous dire. Bonjour Pierre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On va parler de station de bouturage. Tiens, je vais apprendre des choses moi.
Alors oui, bah, quand on a un jardin, quand on a un potager ou quand on est passionné de plantes, si on veut multiplier ses plantes, l'une des techniques qui existe, c'est de le bouturer pour éviter de racheter des plants. Si je viens chez vous, par exemple Stéphane, ce week-end, je vais récupérer des plantes dans votre jardin en les bouturant, en faisant des coupes pour pouvoir les mettre et les multiplier et les mettre dans mon propre jardin. On a vu ça ensemble il y a quelques semaines avec le basilic, mais c'est pas toujours évident parce qu'il faut garder une humidité ambiante assez importante et il faut pas trop arroser, mais pas non plus pas assez arrosé, sinon ça va pas fonctionner.
Alors si vous venez chez moi, il faut que j'achète quel matériel pour que vous soyez bien là.
Alors le mieux, ça serait, là on va voir ensemble, c'est de créer une station de bouturage. Donc il faudrait récupérer deux vieux pots en terre cuite. Donc un premier pot en terre cuite qui fait 15-20 cm de large sur 15-20 cm de profondeur. Pas obligatoirement avec un trou de drainage dans le fond et pas obligatoirement en terre cuite. On peut prendre un pot en plastique. Un deuxième pot, alors je sais pas si vous avez vu les pots avec le muguet qu'on a eu au 1er mai, c'est des pots plus petits qui font 9 cm de diamètre sur 9 cm de profondeur et un pot sans couche de vernis et celui-ci en terre cuite puisqu'on va venir le placer au milieu du premier pot. Et on va compléter tout autour de terreau et en fait on va utiliser ce pot, ce plus petit pot, ce sorgho pot comme une nolasse, donc ces fameuses jarres en terre cuite qu'on avait vues ensemble dans une ancienne chronique, qui va permettre d'arroser le substrat qu'il y a autour. Donc on récupère notre grand pot, on le place au milieu, on bouche le trou de drainage s'il faut, on complète le dessous de terreau ou de billes d'argile pour rehausser le sorgho pot pour que la partie haute du plus petit pot soit à la même hauteur que la partie haute du premier pot, du pot plus grand. On complète le tout de terreau. Alors là, on utilise un terreau semi-repiquage, un terreau semi-ébouturage ou du terreau universel que vous allez tamiser pour avoir un terreau très très fin. On met ça tout autour, on tasse avec les mains. Et ensuite, notre pot du milieu qu'on aura bouché le trou de drainage avec un bouchon de liège, un morceau de liège pour éviter que l'eau s'évacue, sinon ça sert à rien. On lui place une coupelle par-dessus, on remplit et on va placer nos boutures tout autour dans le terreau. Et en fait, ce qui est bien avec ce système, c'est que la terre va chauffer avec l'air ambiant extérieur, l'eau est plus fraîche, le pot va transpirer, il va laisser passer l'eau par ses pores microporeux et ça va humidifier le terreau qu'il y a tout autour et vos boutures pourront avoir assez d'humidité pour développer leur système racinaire. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. On peut s'absenter 3-4 jours et nos boutures qu'on va revenir ne vont pas mourir. Et dernier petit avantage, c'est qu'on peut faire des boutures de plusieurs plantes différentes au même endroit, de la lavande, du basilic, des framboisiers, des fraises, et ça fonctionne.
Vous venez quand vous voulez, hein. Et vous ferez tout, figurez-vous. Je vous mets tout à disposition et vous faites tout.
Je viens avec ma grelinette alors.
Pierre le cultivateur, c'est sur RTL, c'est samedi matin, dimanche matin, rendez-vous, vous podcastez, le replay est disponible dès maintenant. Vous allez sur l'appli RTL.
RTL matin.
Week-end.
Avec Stéphane Carpentier.
Kiki, c'est le kiki de tous les kiki.
Allez, c'est l'heure, on joue au kiki, vous le savez, c'est le dimanche, on vous remercie de votre fidélité, on vous offre un super cadeau et ce dimanche, on va vous offrir une semaine en vacances en famille à 4, s'il vous plaît, sur un bateau de location, le boat, pour naviguer sur une rivière ou sur un canal de votre choix. C'est vraiment un super cadeau, ça vaut quand même 2100 €, la petite affaire. Donc kiki, spécial Marseille aujourd'hui avant l'arrivée de la flamme olympique dans le Vieux-Port de la cité phocéenne. Ce sera l'événement mercredi, il faut identifier identifier un chanteur, un acteur, un groupe de musique, bref, une personnalité en rapport avec Marseille. Par exemple, Kiki chante au Vélodrome.
Vous
voyez
le dire.
Non, vous l'avez dit, hein. Bon, la laine, vous l'avez dit. Et alors là, vous me disiez pourquoi? Parce que c'est ce titre-là en particulier qui accueille les joueurs sur la pelouse du Vélodrome depuis des années.
Je pensais que Van Halen était en concert et du coup, je me suis dit, comment ça, je suis passé à côté?
Non, du tout. D'accord. C'est comme ça à chaque fois que Marseille joue à la maison. Donc, c'est Van Halen. Vous avez déjà une réponse sur les tours. La deuxième, c'est Kiki parle de Marseille avec l'accent local.
À Marseille, la mer. Elle est tellement claire que le se confond avec le ciel. Donc. Oh, René, tu voles? Eh non, je nage.
Voilà, il nous faut un Patrick et un humoriste et un Marseillais en particulier. Et puis Kiki danse en discothèque à Marseille.
À la technique, c'est Michel. De là, il choque et c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut. Allez, c'est parti.
Je danse le mire.
Il nous faut le groupe, bien sûr, typiquement marseillais qui a marqué ces 30 dernières années. Une semaine de vacances en famille à 4 sur un bateau de location, le Boat, c'est le cadeau à l'arrivée. N'hésitez pas, 32-10, vos réponses, 3, 2, 1, 0. Votre horoscope arrive dans une poignée de secondes.
RTL Matin, week-end.
À l'écoute des entreprises avec AXA Prévention. Dans le contexte géopolitique actuel, AXA Prévention accompagne les TPE-PME face au risque accru de cyberattaques lors d'événements sportifs internationaux. Avec nous, la colonelle Marie-Laure Pesan, porte-parole de la Gendarmerie Nationale, et Éric Lemaire, président d'AXA Prévention. Éric Lemaire, beaucoup d'entreprises subissent ce genre d'attaques.
Les petites entreprises sont effectivement devenues les cibles privilégiées des pirates informatiques. Elles représentent 40% des attaques avec demande de rançon. Et selon une étude récente, seuls 27% de ces entreprises ont porté plainte.
Marie-Laure Pesan, c'est important de porter plainte après une cyberattaque?
Oui, l'entreprise doit absolument porter plainte dans les 72 heures qui suivent la connaissance de l'attaque. C'est ce qui permet aux forces de l'ordre de faire cesser les infractions et de retrouver les auteurs. Et la loi l'impose pour obtenir un dédommagement par l'assureur.
Éric Lemaire, où retrouver ces conseils?
Sur axaprévention.fr, vous trouverez une checklist des premières actions à effectuer en cas d'attaque.
Merci.
Chers concitoyens, Akena fabrique tous ses produits en France pour une empreinte carbone réduite. Akena vous garantit qualité, durabilité. Votez pour l'avenir, achetez Akena. Je peux pas, je suis déjà reine. Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
Nous sommes ravis de vous accompagner, merci de votre fidélité. Hein. 5 mai déjà, on embrasse les Judith, c'est votre fête, c'est l'anniversaire d'Adèle aujourd'hui. Sixième jour de cette année sous le signe des taureaux. Tiens, justement, les astres. Christine Haas pour l'horoscope RTL. On vous écoute, Christine, bonjour.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Alors, taureau, Mars est en vedette aujourd'hui, planète liée à vos énergies, à vos volontés, à vos désirs. Elle occupe le bélier et impose un rythme très rapide qui peut parfois vous déplaire. Gémeaux, la Lune traverse le bélier et Mars y forme un bon aspect avec Pluton. Cela indique que vous avez de très excitants projets à deux ou avec des amis. Cancer, c'est pas facile en ce moment pour ceux du mois de juin. Soit vous vous êtes disputé avec votre chérie, soit c'est en famille que l'ambiance n'est pas très sereine. Lion, la conjoncture vous est favorable aujourd'hui, surtout si vous avez besoin de vous changer les idées, de prendre l'air ou de dépenser votre énergie d'une autre manière. Vierge, l'ambiance change du tout au tout. Autant vous pouviez être victime, entre guillemets, hier, autant vous aurez le pouvoir de retourner la situation à votre profit aujourd'hui. Balance, trois planètes se trouvent en bélier, face à vous. Et si vous êtes né en septembre, il se peut que vous soyez en désaccord avec votre chéri ou l'un de vos proches. Scorpion, plusieurs planètes donc occupent le bélier et donnent du pouvoir à Mars, maître du signe. Vous serez comme un chef d'orchestre, hein, on vous obéira à la baguette. Sagittaire, une belle journée vous attend, le plaisir en sera son principal moteur. Tout ce que vous fera vibrer et vous donnera le sentiment d'exister à fond. Capricorne, l'ambiance sera très différente hein, aujourd'hui, car le Bélier et sa planète Mars dominent le zodiaque et cela peut être représentatif d'un petit orage familial. Attention aux disputes. Verseau, quelle belle énergie pour démarrer la journée. On dirait, premier décan, que vous avez quelque chose à dire et vous n'irez pas par quatre chemins. Vous serez cash. Poisson, ce dimanche est marqué par les énergies et l'impulsivité liées à la présence de trois planètes en Bélier. Vous serez probablement motivé pour faire du sport, pour vous dépenser, utiliser ces énergies de manière à vous booster. Bélier, vous serez un peu comme une centrale nucléaire, enfin j'exagère un peu, avec trois planètes dans votre signe, dont Mars, hein, pour le premier décan. Vous brûlerez une énergie considérable aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et puis pour plus d'astro, le 3210 et c'est l'astro.com.
Bougie de plus pour Adèle, donc aujourd'hui, pour Virginie Efira notamment, ou encore pour Kims. Notre rempart à l'amorosité sur RTL, ce sont les grosses têtes. C'est 15h30, 18h avec le dimanche.
Père, hein, si ça existe.
Avec le dimanche, le top, les moments forts des émissions de Laurent Ruquier.
Thierry, lui, veut défendre Johan Rioux. Il dit c'est un scandale, toutes les moqueries dont fait l'objet Johan.
C'est vrai.
C'est bien ça?
Ah, exactement, oui, ça me fait mal.
Mais c'est de l'amusement,
mais
c'est
le premier rigolade. C'est lui. Hein. Vous avez même décidé de fonder le CSYR.
Le CIR, oui.
Le CIR, comité de soutien à Johan Rioux.
Exactement.
Dont vous serez président à vie et pour l'instant le seul membre actif. Rien à ajouter, Thierry, à propos de Johan Rioux?
Bah, je pense que c'est vrai qu'il a l'air de s'amuser, mais je pense qu'il comprend pas exactement ce qui se passe autour de lui.
Avec des amis comme vous, alors.
Profitez bien des grosses têtes version Laurent Ruquier. Hein. Rendez-vous cet après-midi, 15h30. Je disais rempart au lieu de rempart.
Ouais, bah j'ai trouvé un rempart, c'est un artiste, c'est un musicien. Il a une chanson qui s'appelle La Primera Bicicleta.
Et voilà, comme quoi ça existait. La météo, Valérie, après ça.
RTL Matin. Weekend. RTL, vivre ensemble. On en parle.
L'insuffisance cardiaque est une maladie invisible qui touche plus d'1,5 million de personnes en France. Reconnaître les signaux d'alerte est essentiel pour la détecter et la prendre en charge. On en parle avec le professeur Thibaut Damy, cardiologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil où nous sommes. Bonjour.
Bonjour.
Alors professeur, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque ?
L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie où le cœur est fatigué et il ne peut plus pomper le sang qui est nécessaire au fonctionnement de tous les organes du corps humain.
Alors quels sont les signes d'alerte de cette maladie ?
Les quatre principaux signes d'alerte sont l'essoufflement, pour les efforts de la vie quotidienne, la prise de poids inexpliquée, les œdèmes qui sont liés généralement à des gonflements des pieds, des jambes ou du ventre, et la fatigue, là encore, lors des efforts quotidiens de la vie.
Que faire alors si l'on constate l'un de ces quatre signes ?
Il faut consulter son médecin généraliste très rapidement pour qu'il puisse faire le diagnostic, agir et éviter la progression de la maladie.
Merci professeur.
On en parle. Pour en savoir plus sur l'insuffisance cardiaque, rendez-vous sur amélie.fr.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagnée.
Tout est prêt pour votre déménagement, Linda ?
Non, Cerise, j'ai oublié l'assurance habitation. Avec mon budget, je peux pas payer cher et j'ai peur de pas être bien couverte.
Chez Groupama, vous pouvez économiser en moyenne 149 euros sur votre contrat habitation et profiter des mêmes garanties.
Vous savez me parler, Cerise.
Nos conseillers aussi, et ils sont disponibles en agence à moins de 15 minutes de chez vous.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2022. Étude Ipsos 2023. Plus d'infos sur groupama.fr.
RTL.
Corinne a doux ce matin dans le Val-de-Marne et que doux dans les Vosges. Et Hervé qui nous précise tout ça. Gérard est dans le sud-est à Valoris. Quelques nuages et 12 degrés au compteur.
Alors il fait un petit peu moins froid qu'hier matin, c'est vrai. Bon, à Lille, il fait que 5 degrés hein, alors qu'il est, mais c'est aussi parce que le ciel y est assez lumineux. On a 11 degrés à Paris et Montélimar, 12 à Rennes, 13 à Biarritz, 14 à Marseille. Un ciel qui est dégagé donc sur l'extrême nord qui ne va pas le rester. Et puis on a aussi un ciel plutôt bien dégagé, plutôt lumineux entre les Pyrénées et la Méditerranée. Alors près de la Méditerranée, Méditerranée, ça devrait tant bien que mal tenir toute la journée, même si on peut avoir un petit peu plus de nébulosité dans le golfe du Lion passé la mi-journée. Pour les régions de la moitié nord, beaucoup de nuages. Le soleil va finalement disparaître des Hauts-de-France pour céder la place à un ciel beaucoup plus chargé, nuageux, mais avec seulement quelques averses. On a les dernières pluies d'hier qui sont en train de s'évacuer par l'est, et dans la foulée, de nouvelles pluies orageuses vont arriver cet après-midi et surtout ce soir par le sud-ouest, remonter jusqu'à la Bourgogne. Localement, on pourra avoir vraiment beaucoup d'eau, de la grêle, voire de brusques rafales de vent. Donc ça va taper assez fort dans la soirée, avec des températures cet après-midi qui remontent légèrement. 16 degrés attendus à Lorient et Maubeuge, 17 au Havre, 18 à Paris, à Beauvais, à Perpignan, 21 degrés pour Annecy et 24 à Agen et Cahors.
Et un timide rayon de soleil en ce moment à Brive. C'est Hélène qui partage tout ça sur la page Facebook. On a Denis qui est connecté depuis l'Allier, il a 12 degrés, et Brigitte a seulement 4 degrés là, actuellement, près d'Amiens. Merci d'être là, il est 7h30.
RTL Matin.
Antoine Cavallero est de retour pour tout savoir de l'actualité de ce dimanche 5 mai. Bonjour Antoine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
6 mois après les inondations dans le Pas-de-Calais, RTL a décidé de retourner à Blandec, ville symbole de la catastrophe.
Et où c'est désormais officiel, tout un quartier de cette commune près de Saint-Omer va être rasé. Une dizaine de maisons vont être rachetées grâce à un fonds spécial de l'État. Les habitants sont soulagés de quitter une zone devenue trop à risque, mais le départ se fait avec émotion. Reportage Antoine Decarne.
Dans ce lotissement, tous les volets sont fermés, il ne reste que les marques du passage de l'eau sur les maisons.
C'est avec joie qu'on a appris qu'on allait être acheté par l'État. On voulait se mettre en sécurité.
Car Vincent Maquignon a eu 1,80 m d'eau chez lui, il n'y vit plus depuis novembre dernier. Sa maison sera rasée.
C'est bien une démarche volontaire. Le prix de rachat a été abordé, bien sûr, c'est la première chose pour nous. Nous sommes juste à l'équilibre pour que nous on puisse racheter un bien.
Sur les 40 habitations à avoir fait une pré-demande pour quitter sa maison, seuls 8 dossiers ont pour l'instant été déposés. Selon Vincent, il est difficile de franchir le pas.
Ici, les 8 maisons qui s'en vont, c'est pas de gaieté de cœur. J'ai vu mes enfants grandir ici, sont nés ici, faire leur premier pas, leur premier pleur, le premier cri. On va tourner une grosse page.
Et Christine, une voisine également, elle a vécu 31 ans dans le lotissement. Partir pour elle est un choix rationnel.
C'est plus raisonnable de faire ça. De toute façon, si on part pas maintenant et qu'il y a encore des catastrophes après, on n'aura plus rien.
À terme, d'ici 2 ans, ce lotissement deviendra un bassin de rétention d'eau afin de protéger la commune de nouvelles inondations.
Antoine Decarne à Blandec dans le Pas-de-Calais pour RTL. À retenir ce matin, une reconstitution dans l'affaire Naël. Elle a lieu ce matin sur les lieux du drame à Nanterre en région parisienne. Il s'agit de comprendre l'engrenage qui a amené à la mort du jeune homme tué par un tir policier en juin 2023. Il venait de commettre un refus d'obtempérer. Les deux policiers et les témoins seront présents. 8000 personnes hier à Châteauroux. Immense émotion lors de la marche blanche pour Mathis, ce jeune de 15 ans tué sous les coups de couteau d'un ado du même âge. C'était le week-end dernier.
7h32, c'est le rendez-vous qui va véritablement lancer la campagne des européennes. RTL organise le premier débat avec les 7 principaux candidats.
Il y aura notamment Jordan Bardella du Rassemblement National qui va se confronter pour la première fois aux autres têtes de liste. Un grand jury RTL, Le Figaro, M6, Paris Première, LCP exceptionnel en direct sur RTL et Paris Première de midi à 14h, en différé sur LCP à 18h. Lui était justement en campagne pour ces européennes hier à Ajaccio. Éric Zemmour, le président du parti d'extrême droite Reconquête, hué, insulté sur un marché, visé même par un œuf.
Fasciste de merde !
Dégage ! Ce sont des imbéciles et des violents qui croient m'intimider, mais moi, je suis comme les Corses, on m'intimide pas. Au-delà de ces braillards, moi, je sais que les Corses sont d'accord avec moi et qu'il y a une grande vague identitaire qui se lève en Corse parce qu'ils ont compris que la défense de l'identité corse et la défense de l'identité française, c'était le même combat.
Éric Zemmour, que l'on voit sur une autre vidéo publiée par le journal Corse Matin, on le voit donner un coup à une femme. Son entourage assure qu'il s'agit d'un réflexe de légitime défense. Dans l'actualité politique également, Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté les blocages à Sciences Po. Selon lui, les actions des manifestants pro-Gaza empêchent le débat. Le président de la République accorde une interview à la Tribune dimanche. Il aimerait également voir Gabriel Attal s'impliquer davantage dans la campagne européenne. Le chef de l'État qui reçoit son homologue chinois à partir d'aujourd'hui. Xi Jinping arrive cet après-midi en France. C'est sa première tournée européenne depuis 2019. Il s'agit notamment de célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre Paris et Pékin.
Et puis écoutez ce qui suit, c'est une histoire à peine croyable. L'histoire d'une femme en charge et de toilettes licenciée pour avoir accepté un pourboire.
Ça s'est passé en novembre dernier à la gare Montparnasse à Paris, Simon Marseille. Cette dame a eu le malheur de garder une pièce de 1 euro.
Oui, et jusqu'ici, elle avait toujours refusé de glisser un pourboire dans sa poche. Pourquoi ? Eh bien parce que son contrat de travail lui interdit, en 6 ans, à enfiler chaque jour ses gants pour faire briller les toilettes. Pas un blâme, pas un avertissement de ses employeurs. Mais le 30 novembre dernier, un client insiste.
Le monsieur a laissé le 1 euro sur sa table de travail.
Richard Bloch, défenseur syndical à la CGT.
Elle a pris cet 1 euro qui était sur la table, sachant que c'était un pourboire pour elle.
Résultat, une semaine plus tard, elle reçoit une lettre de son patron et c'est la douche froide.
Nous vous avons fait voir les enregistrements des caméras. Un client se présente devant le portillon, il vous tend un billet, vous ouvrez la caisse pour lui rendre la monnaie et l'euro correspondant à son passage est posé sur le meuble de caisse jusqu'au moment où vous récupérez la dite pièce. Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, etc. etc.
Faute grave donc pour avoir récupéré 1 euro, un pourboire d'après l'employé, une pièce volée lors d'une transaction d'après l'entreprise dans cette lettre de licenciement. La société qui gère les toilettes, Touzelou, n'a pas souhaité nous répondre.
Le récit de Simon Marseille.
7h35.
RTL Sport.
Les sports avec ce matin Monaco, solide dauphin de la Ligue 1 de football, le rugby, Toulouse, qui joue pour une place en finale de Coupe des Champions cet après-midi, et puis la Formule 1, Grand Prix de Miami, la démesure à l'américaine.
Alors que Brest a fait match nul 0-0 contre Nantes hier soir, Monaco sécurise sa deuxième place. Les Monégasques comptent 4 points d'avance sur les Bretons, 3e. Hier, ils se sont facilement imposés face à Clermont, la lanterne rouge, 4 buts à 1, avec notamment une réalisation de l'attaquant Brelem Bolo.
C'était très important de faire le taf aujourd'hui. On l'a fait et la manière aussi était bonne et tout. C'est pas encore fini. J'ai vu qu'on est sûr d'être 4e, mais comme j'ai dit, on est 2e. On veut garder cette place. On a tout pour, on a ça dans les jambes et on a ça devant nous. À nous de finir le travail et de finir la saison de la très très bonne manière.
Mbolo avec Mickaël Lefebvre pour RTL.
Et hier encore, c'est Rennes qui a fini par s'imposer 3 buts à 2 à Metz.
Cruelle désillusion pour les Messins qui ont mené 2-1 jusqu'à la 70e minute de jeu avant un pénalty contesté et un carton rouge contre leur meilleur joueur Miko Tadze. Les Lorrains furieux contre l'arbitre à l'image de leur coach Laszlo Bologni.
Je ne peux pas commenter parce que c'est incommentable. Je me pose une seule question. Est-ce que vraiment je suis prêt de parler pour vous vraiment ce que je ressens et vraiment ce qui est sur mon cœur? Parce que si je fais ça, alors j'achète tout de suite un billet pour aller à la commission de discipline. Et ils vont avoir raison. Parce qu'il y a toujours une phrase, un mot d'interprétation. Déjà, je crois qu'avec ça, j'ai trop dit.
L'entraîneur messin Laszlo Bologni avec Dimitri Ramelot. Un dernier résultat en Ligue 1, la victoire 3 buts à 1 du Havre face à Strasbourg.
Il n'y a pas de match aujourd'hui, on commémore les 32 ans de la catastrophe de Furiani quand une tribune du stade de Bastia s'était effondrée.
En Ligue 2, la JOCR officieusement assurée de remonter dans l'élite l'an prochain, notamment après la victoire des Bourguignons 2-0 contre le Paris FC. Saint-Etienne accrochait 2 buts partout à Guingamp. Chez les filles, la 4e Coupe de France du PSG, les Parisiennes ont battu 1-0 Fleury.
Et puis le rugby, la Coupe des Champions avec une demi-finale Toulouse-Harlequins.
Les Toulousains partent favoris face aux Anglais, ce sera à 16h. Le vainqueur affrontera le Leinster en finale. Les Irlandais ont disposé hier de Northampton 20-17.
La Formule 1, c'est Max Verstappen qui partira en pole tout à l'heure à Miami.
Départ de la course à 22h. Le triple champion du monde a également remporté la course sprint hier. Le Néerlandais invaincu en Floride, le Grand Prix de Miami qui en 3 éditions seulement. C'est déjà un posé comme l'un des moments forts de la saison, Frédéric Veil.
Oui, comme chaque année depuis 2022, le Grand Prix de Miami sera le Grand Prix de la démesure.
Welcome to Miami Grand Prix.
Avec son circuit autour du Hard Rock Stadium, sa marina artificielle, sa musique omniprésente dans les paddocks et bien sûr ses stars fidèles au rendez-vous, cette étape en Floride est un véritable show à l'américaine. Romain Grosjean, l'ancien pilote de Formule 1, vit aujourd'hui à Miami et pour lui, ce succès ne le surprend pas.
Je pense tout simplement parce que Miami est une ville active, Miami est une ville qui aime le sport, parce que Miami est une ville qui fait rêver, une destination assez fantastique. et que quand tu mets tous ces ingrédients ensemble, forcément on se retrouve avec un Grand Prix qui devient assez spécial.
Si bien que la F1 s'impose de plus en plus aujourd'hui aux États-Unis, le pays des courses IndyCar, et cela Romain Grosjean lui-même pilote IndyCar, c'est pourquoi.
Donc Netflix a une influence monstrueuse sur la F1 à laquelle personne ne s'attendait. Et c'est très beau à voir.
Pour preuve, plus de 270 000 spectateurs sont ce week-end autour du circuit de Miami.
Frédéric Veil, spécialiste sport mécanique de RTL. Je signale que les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon s'élanceront respectivement en 12e et 13e position au volant de leur Alpine tout à l'heure à Miami. Du tennis, la finale messieurs ce dimanche à Madrid. Rublev contre Auger Aliassime, c'est à 18h30 hier. Iga Swiatek a remporté la finale dames contre Arina Sabalenka. Match intense de 3h11. Victoire de la Polonaise 7-5, 4-6, 7-6. La numéro 1 mondiale qui s'en est félicité.
Well, who's gonna say that now that women's tennis is boring, right?
Qui va dire maintenant que le tennis féminin est ennuyeux? Iga Swiatek qui l'assure, c'est la plus intense et la plus folle des finales que j'ai jouées. Le cyclisme, la deuxième étape du Giro. Hier, c'est l'équatorien Narvaez qui a remporté la première. Il est donc vêtu de rose. Pogacar, le grand favori, a déjà marqué les esprits. Et puis un mot de boxe, le Mexicain Saul Canelo Alvarez réaffirme sa supériorité chez les super moyens. Il conserve son titre unifié face à son compatriote Jaime Munguia. C'était cette nuit à Las Vegas aux États-Unis.
Antoine Caballero, évidemment, cette nuit à Rio au Brésil. Il y avait Madonna sur scène, bien entendu. Immense concert sur la plage de Copacabana, des centaines de milliers de fans face à la star aux 40 ans de carrière. Ça donnait ceci tout à l'heure. Hein. Qui inonde les réseaux sociaux, on vous en parlera dans le journal de 8h. On sera à Rio avec notre correspondante pour ce concert événement de Madonna. Dans un instant, on parle voiture et une petite séquence nostalgie avec Christophe Bourousse et Autoradio.
RTL.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dans nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La Vie Claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, bougez plus.
Articulez! Je vous l'ai déjà dit sur scène, articulez!
Chantal, je veux bien vous donner la réplique, mais bon...
Taisez-vous, arrogant, écoutez-moi.
Oui, mais...
Jacquelin, découvrez le plus grand choix, le pergola, pour un confort maximal. Pergola bioclimatique, toises ouvrant aux lames orientales. Et voilà.
Akena, la reine des vérandas.
Et les pergolas.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R, la mondiale, vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur AG2R, la mondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
RTL Matin, Autoradio.
Le dimanche matin, c'est toute l'actualité automobile. C'est Christophe Bourreau, notre spécialiste, avec un anniversaire aujourd'hui. Bonjour Christophe.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
C'est Citroën qui souffle les 90 ans de la traction avant.
Et 90 ans après, elle démarre au quart de tour.
Ah, le bruit de l'iconique traction, voiture préférée des gangsters de la résistance et du général de Gaulle, est vendu à plus de 700 000 exemplaires.
700 000 exemplaires, c'est certainement l'une des voitures françaises les plus célèbres avant et après-guerre.
Oui, lancée en 1934 par un certain André Citroën, la traction va tout de suite faire sensation.
Place de l'Opéra à Paris, on fait la queue, non pas pour admirer Joséphine Baker ou Maurice Chevalier, mais pour voir la nouvelle voiture de monsieur André Citroën.
Sensation parce qu'à l'époque, la voiture adopte les roues motrices à l'avant, d'où son nom de traction, mais la vraie nouveauté, c'est d'associer toutes les solutions les plus modernes de l'époque, selon Denis Huil, à la tête de l'aventure Citroën, véritable gardien du patrimoine de la marque.
En 1934, André Citroën veut frapper un grand coup. Il veut que la voiture qui sort à ce moment-là ait plusieurs années d'avance sur la concurrence. Donc il va très loin dans ses choix technologiques. Il va en faire une voiture à roues avant motrices. Cette voiture, en fait, elle est en avance parce que elle est facile à conduire, elle est fiable, aérodynamique. Et nous sommes en 1934 seulement. André Citroën va vraiment avoir un coup d'avance sur la concurrence.
Un tel coup d'avance que cette traction, on va la surnommer la voiture au sombre vert.
Et une voiture qui est intimement liée à l'histoire de notre pays. Hein.
Tour à tour, oui, voiture de la Gestapo, hein, et icône aussi de la résistance, puis du général de Gaulle, adoptée finalement par les bons et les méchants.
Mais cette voiture était tellement efficace, tellement moderne par son style, qu'elle a vite été adoptée, notamment par les gangsters, c'est vrai, parce qu'ils arrivaient à semer la police dans des voitures plus traditionnelles.
Coupe ton moulin.
C'est un hold-up.
Et voilà la voiture utilisée par le fameux gang des tractions avant, qui est une bande de malfaiteurs des années d'après-guerre, spécialisée dans les attaques à main armée avec un certain Pierrot le fou au volant.
Et tout cela a contribué à la légende de cette voiture, Christophe, qui a longtemps sillonné les routes du Tour de France.
Et oui, dans la caravane du Tour de France, avec perché sur le toit d'une traction, alors une méga star à l'époque.
La reine de l'accordéon.
Vous avez reconnu Stéphane, je sais que vous êtes un grand fan. La reine de l'accordéon, effectivement, Yvette Horner, qui a participé au tour de 1952 à 1963. Pendant 11 ans, en robe multicolore, le sombrero mexicain sur la tête, elle jouera jusqu'à 7 heures d'affilée par jour. Vous imaginez, en supportant quand même la douzaine de kilos de l'accordéon.
Alors la traction, ce sont 23 ans de carrière jusqu'en 1957 et cette voiture est aujourd'hui très recherchée par les collectionneurs.
Et oui, il y a quelques temps, j'ai eu le plaisir de monter à bord de la magnifique traction de Jean-Louis Poussard, une type A achetée quand il avait à peine 20 ans. Plus de 40 ans après, eh bien, Jean-Louis roule toujours avec.
J'amorce la pompe pour faire rentrer l'essence dans le carburateur et ensuite elle va pouvoir démarrer.
Allez, c'est parti.
Et voilà. Alors après, on va passer la première.
Ah, ça fonce, hein. Le passage de vitesse est quand même assez particulier. Hein.
Oui, il n'y a que trois vitesses et puis oui, c'est particulier. C'est la première en bas à droite, la deuxième en haut à gauche et puis la troisième en dessous.
Vous avez fait combien de kilomètres avec cette voiture et combien de pays vous avez traversé?
J'ai dû faire 120 000 kilomètres. J'ai traversé plein de pays. Je suis allé dans le nord de l'Europe, au Danemark, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Écosse, dans le désert à Ouarzazate. C'est la voiture avec laquelle j'ai passé mes années d'étudiant. C'est la voiture avec laquelle je me suis marié. C'est la voiture avec laquelle j'ai appris mes enfants à conduire. C'est la voiture d'une vie, quoi.
C'est beau, hein? Ouais. Tellement fan que Jean-Louis Poussard est le président du club de l'attraction universelle qui organise un grand rassemblement ce vendredi jusqu'à dimanche prochain au circuit de Charade. C'est près de Clermont-Ferrand, avec programme exceptionnel hein, et même des baptêmes en traction. Il y aura plus de 1000 voitures appartenant à des collectionneurs du monde entier.
Génial.
Nous y serons sur place avec nos amis de Turbo sur M6, aux côtés de Dominique Chapatte pour vous faire vivre cet événement.
Et un rendez-vous à ne pas manquer, évidemment. Turbo, c'est comme tous les dimanches, et tout à l'heure, c'est 11h20 sur M6, et comme tous les dimanches chez Autoradio, c'est signé Christophe Bourroux, c'est podcastable, le replay sur RTL. .fr. Bon dimanche, Christophe.
Bon dimanche.
RTL Matin, Autoradio.
Muriel est avec nous, on l'embrasse, hein, dans la Vienne à Fontaine-le-Comte. Il y a 12 degrés actuellement. Et puis Dan nous signale une petite brume matinale sur l'Avesnois. Il est 7h46.
RTL Matin Week-end. 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Alors Chloé, ce nouveau travail ?
Génial Cerise, mais j'ai beaucoup plus de trajets maintenant et mon fils est obligé de rentrer seul de l'école. Ça m'inquiète.
Grâce au système de télésurveillance Groupama, vous recevez une notification sur votre smartphone qui vous prévient dès son retour à la maison.
Ça c'est rassurant Cerise.
Oui, et en ce moment, Groupama vous offre les frais d'installation. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Parlons-nous. Caroline Dublin.
Blanche sur RTL.
Le dimanche soir, à partir de 23h sur RTL, l'antenne vous appartient. Rencontres, sexualité, manque de communication et conflits au sein du couple. Je suis à votre écoute pour échanger avec vous et vous proposer des solutions. Alors si vous ressentez le besoin de vous confier, un seul numéro, le 09 69 39 10 11.
Prix d'un appel local.
À ce soir, 23h sur RTL.
Parlons-nous.
6h, 9h15,
RTL Matin,
avec Stéphane Carpentier.
Bonjour à vous tous, si vous ouvrez les yeux en ce dimanche matin, je vous rappelle que l'événement, c'est sur RTL ce dimanche midi, 14h. Européenne 2024, un grand jury exceptionnel, grand jury RTL Le Figaro, M6, Paris 1ère, LCP. Pour la première fois, à 5 semaines du scrutin, les 7 candidats au-dessus de la barre des 5% d'intention de vote ont accepté de débattre ensemble. Par ordre alphabétique, Manon Aubry, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann, Valérie Ayer, Marion Maréchal et Marie Toussaint. À 5 semaines du vote, donc le rendez-vous à ne pas manquer, le grand jury exceptionnel RTL Le Figaro, M6 Paris 1ère LCP de midi à 14h.
RTL Matin.
Et l'autre événement, c'était à Lyon hier soir, la capitale des Gaules, qui est devenue capitale du catch pendant 2 jours, puisque c'est dans la cité des Gaules, à Lyon, que la plus grosse fédération du monde a donné son premier show télévisé chez nous en France. Backlash, c'était l'événement du week-end. Mathias Luguin, vous êtes toujours sur place. Vous y avez assisté, c'était pas rien. Hein,
ah, j'adore quand vous parlez anglais, Stéphane. Décidément. L'histoire s'est écrite dans l'enceinte de la toute nouvelle LDLC Arena, salle qui peut accueillir jusqu'à 16 000 personnes. Le Backlash France d'hier s'est déroulé à guichet fermé. Mieux encore, il a établi un nouveau record puisque c'est le show qui a réalisé le plus de recettes dans toute l'histoire de la WWE, avec une ambiance de feu. Et si la compagnie a décidé d'ouvrir ce spectacle d'envergure à la France, c'est parce qu'elle avait bien remarqué, lors de tournées non télévisées, le potentiel des fans de catch dans notre pays. Des fans surmotivés qui ont donné de la voix, au point de recevoir sur les smartphones une alerte quant au bruit environnement trop élevé. Les caméramans ont eu bien du mal à tenir une image stable, tant le public a littéralement fait trembler la salle. Écoutez la réaction de Christophe Ajus et Philippe Chéreau, les commentateurs français de la WWE.
Enlevez votre casque 2 secondes, parce que vous vous rendez pas compte, ces casques qui coupent le bruit de ouf. C'est simple, vous vous en rendez peut-être pas compte à la télévision, mais le public fait plus de décibels que la sonorisation. Et croyez-moi, les Américains aiment bien mettre très très fort. Il y a un bruit incroyable ce soir à Lyon. Je crois que là, on a tout cassé.
Une vraie folie, hein. Pourquoi ça? Parce que les fans ont trop attendu, Mathias?
Alors, il y a sûrement un petit peu de ça, mais rendez-vous compte, c'était un rêve qui est devenu réalité pour certains. Et puis, le spectacle était aussi de qualité dès le départ, avec un match par équipe notamment. Le Québécois Kevin Owens s'associait au vétéran Randy Orton, dont la chanson d'entrée est reprise en chœur par la salle. Des frissons, même le catcheur lui-même, on sent qu'il est presque touché. Combat qui a très très vite dégénéré, se poursuivant jusque dans les tribunes, des coups de chaise, des coups de poubelle qui sont portés, des tables en bois brisées. Puis voilà, une vraie mise en bouche ahurissante. Il y a eu plusieurs matchs féminins, dont un qui a permis de couronner de nouvelles championnes par équipe. Et puis, dans un match final de très très haute volée pour le championnat universel indisputé de la WWE, le tenant du titre chouchou du public, Cody Rhodes, a eu fort à faire face au technicien AJ Styles, celui que l'on surnomme le phénoménal. Ah bah alors là, il en fallait pas plus pour inspirer le public lyonnais. Bon, d'ailleurs, en termes de chant un petit peu loufoque, on a fait fort et très français. Voici une petite sélection, écoutez.
Bon, avec ce qu'on entend, Mathias, on a l'impression que c'est un peu l'amour vache entre le public et les catcheurs.
Ouais, ça fait partie du jeu, le côté grand guignolesque du catch où il y a souvent un gentil, un méchant pour faire monter la sauce. À l'image de Grayson Waller, l'Australien champion par équipe avait tweeté il y a quelques jours « Je n'arrive pas à croire qu'il m'oblige à aller en France, tout le monde là-bas sans le fromage. » Alors quand je le rencontre, il persiste et signe.
J'ai dit que les Français sentent le fromage, c'est vrai, et le vieux fromage. Tu vois, je suis à côté de toi et j'ai envie de dire, c'est pas mal de se doucher avant de faire les interviews. On a mangé du brie hier soir et c'était très bon, donc peut-être que ce que j'ai dit était positif au final.
Cette particularité d'être une sorte de pièce de théâtre jouée sur un ring, le public y tient un rôle à part entière. C'était donc le moment pour les Français de prouver leur enthousiasme en la présence de l'état-major de la fédération. Triple H a été un très grand champion, aujourd'hui dirigeant. Il prend la parole à la fin de Backlash.
What an amazing night. Wow.
Quelle nuit incroyable, waouh. Je ne sais pas s'il m'était déjà arrivé qu'après le début d'un show, je n'arrive plus à entendre une personne juste à côté de moi, même en criant. Depuis des années, on me dit, il faut aller en France. On y est. Nous avions de grandes attentes en venant et vous les avez largement dépassées. À tel point que le président de la WWE m'a envoyé par SMS juste « Stade ?» pour l'interrogation. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'une nouvelle ère pour le catch vient de débuter. Il y aura toujours des tracteurs, c'est certain, mais lorsque l'on voit l'engouement de la communauté, lorsque l'on vit un moment aussi fort que Backlash, force est de constater qu'il se passe vraiment quelque chose. J'en ai fait un, vous savez, des spectacles, des concerts, des matchs de foot, même dans des stades bien plus grands, jamais je n'ai vu quelque chose de comparable. Et passé l'excitation et la bonne humeur, la foule est vraiment comme soudée. I'm coming home, mais voilà. Pendant un moment, j'ai de nouveau été ce gamin de 10 ans qui a traversé la France en voiture avec son papa pour aller assister à son premier show de catch. Tiens, petite poussière dans l'œil au passage. Et pendant le spectacle, on éprouve de nombreuses émotions, la surprise, la tension, la joie, tout en partageant, en faisant des rencontres. C'est un petit peu la vie, en somme. C'est vrai que c'est maintenant, c'est le meilleur moment pour vraiment découvrir la discipline. Soyez ouverts, soyez curieux, parce que l'après Backlash, lui, sera radieux.
C'est un des phénomènes du moment, hein. Donc le catch qui explose chez nous en France. On avait besoin de vous en parler, de partager tout ça. Mathias Louguin va tout vous mettre sur ses réseaux sociaux. Bien sûr, vous aurez les images de la folie d'hier à Lyon. Merci Mathias. 7h55.
Un bonbon sur la langue.
Muriel Gilbert.
Retour au calme avec la leçon de français au réveil. Le bonbon de Muriel, notre correctrice qui nous instruit. Vous êtes fan du rendez-vous. Bonjour Muriel.
Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
Tiens, ce dimanche, c'est bricolage.
Et oui, il y a des journées mondiales pour tout maintenant. Et bien figurez-vous qu'approche à grands pas celle du bricolage. Vous êtes bricoleur, vous, Stéphane ?
Ou médiocre.
Moi, à vrai dire, à l'instant où je mets les pieds dans un magasin de bricolage, je ne peux pas m'empêcher de bailler. C'est vrai, un réflexe. Bref. Ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Mais, je viens de déménager et soudain, me voilà confrontée à tout un tas de vocabulaire inconnu.
Mais quand le bricolage devient vocabulaire, là, Muriel, ça vous intéresse.
Mais comment le savez-vous ? Mais oui. Par exemple, quand un copain venu donner un coup de main demande une clé à laine.
Ouf.
En allant discrètement vérifier sur Internet, histoire de ne pas passer pour une gourde, à quoi pouvait bien ressembler cet instrument au nom étrange, j'ai découvert une orthographe inattendue. Ce n'est pas une clé à laine, L-A-I-N-E, comme de la laine à tricoter. Bon, j'avoue, ça, je m'en doutais un peu. Mais c'est une clé à laine, avec un A majuscule, suivi de deux L-E-N, un nom propre, quoi. Celui de l'entreprise américaine qui a inventé cette clé en 1943. Ami des mots, si vous êtes aussi ignare que moi, je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble en tapant le mot sur Internet. Vous verrez que vous connaissez l'animal.
Bref, Muriel, vous voilà plongée dans les mots du bricolage.
Et oui, et qui sont parfois bien mystérieux quand on y pense. Par exemple, pourquoi la clé anglaise est-elle anglaise ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a été inventée par un Anglais au début du 19e siècle. En anglais, d'ailleurs, elle ne s'appelle pas clé anglaise, mais Monkey Wrench, par référence au nom de son inventeur, Charles Monkey. Ah, et j'en ai profité pour vérifier pourquoi le nom de la scie égoïne ressemble tant à l'adjectif égoïste. Eh ben, c'est pas par hasard. Égoïne, tout comme égoïste, dérive du je latin, hein, ego. Mmh. Tout simplement parce qu'on s'en sert tout seul de cette petite scie, par opposition à ces grandes scies dont la manœuvre nécessite deux gros bûcherons en chemise à carreaux.
Et le mot bricolage, Muriel, il vient d'où ?
Alors, bricolage est un bébé à l'échelle de l'histoire de la langue, il n'a pas encore 100 ans. Mais il descend d'un terme bien plus ancien, la bricole, arrivée en français dès le 14e siècle, elle, et qui était, vous ne devinerez jamais.
Une bricole, c'était une petite chose.
Alors aujourd'hui, oui. Mais à l'origine, le mot vient de l'italien bricola, qui désignait un gros machin dangereux. La première machine de guerre, en fait. Une catapulte. Wow. Alors ce sens est sorti de l'usage en même temps que la machine devenait obsolète à la Renaissance. Et la bricole a progressivement évolué vers l'idée d'arranger ingénieusement quelque chose. Allez, amis des mots, il vous reste quelques jours pour réviser tout ce vocabulaire, histoire d'être fin prêt pour la journée du bricolage. Ne manquez pas, c'est le 24 mai.
Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
Un bonbon sur la langue tout en bricolage en ce dimanche matin, le rendez-vous. Merci Muriel. On podcast dès maintenant sur votre site rtl.fr. Ça bricole chez vous, Valérie, ou pas?
Parfois. Disons que ça commence.
Mais ça finit pas.
Le chantier est toujours commencé, il y en a plusieurs.
Ça viendra. Sylvie est avec nous, on l'embrasse en Dordogne, à Tourtoirac. Il y a 12 degrés là et les oiseaux chantent avec un ciel encore agité.
Alors oui, de toute façon, on ne va pas encore avoir du très très beau temps aujourd'hui. Pour l'instant, on est un petit peu entre deux dégradations. Celle d'hier qui donne encore quelques pluies sur le flanc est à l'heure qu'il est. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est toujours en Atlantique, mais qui va évidemment aborder le pays par l'ouest dans le courant de la journée. Donc entre les deux, on va avoir une pause souvent nuageuse. Le ciel est quand même assez lumineux vers les Hauts-de-France, mais également entre les Pyrénées et la Méditerranée. Alors dans le sud, ça restera clair, même s'il y aura des nuages un petit peu encombrants en Languedoc-Roussillon. Dans le nord, ça va se charger au fil des heures. Et puis les pluies qui vont donc arriver par l'ouest seront très intenses, très copieuses, surtout cet après-midi et ce soir depuis le sud-ouest en remontant jusqu'à la Bourgogne avec localement de très forts orages assortis de grêles et de brusques rafales de vent. Les températures, elles remontent, dites donc, aujourd'hui. Bon, pas de beaucoup, puis ça va pas durer. 16 degrés à Rennes cet après-midi, 17 à Lille et Vannes, 18 à Paris, à Metz, à Nice, 20 degrés à Dijon et 22 à Mâcon. À